Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les garçons, à demain pour de nouvelles aventures. Nous c'est parti, le 18-20, France Inter est ouvert, attention au départ et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, ça commence avec le journal et le tour complet de l'actualité, signé Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence avec 13 hommes qu'on préfère ne pas voir.
La France pas pressée de récupérer ses djihadistes partis combattre en Syrie ou en Irak. Emmanuel Macron n'a pas confirmé le retour de 13 islamistes français, mais son homologue irakien en visite à l'Elysée a assuré que ses suspects seraient jugés en Irak. La justice abandonne les poursuites contre Luc Besson, le cinéaste pris dans le scandale MeToo. La plainte contre lui pour viol est classée sans suite. Les grands gagnants de la loi alimentation attendent de voir leur compte en banque pour se réjouir. Les producteurs de lait restent prudents en plein salon de l'agriculture et en pleine négociation entre les industriels et la grande distribution. Un nouveau pensionnaire à la Comédie Française, il s'appelle Biran Ba et ses fans espèrent que sa couleur de peau, il est noir et c'est rare aux Français, ils espèrent que sa couleur ne l'empêchera pas d'avoir autant de rôles que ses collègues. Demain encore du ciel bleu et de la douceur, c'est joli mais ça n'arrange pas les problèmes de pollution dans les grandes villes.
À 18h15, un jour dans le monde et si l'Algérie se réveillait, on ne sait pas encore si on en est là. En tout cas, manifestation vendredi et puis hier, une autre prévue mardi, une autre encore après. L'Algérie ne veut plus d'un président qui se présente pour la 5e fois mais qui est malade, que les Algériens n'ont pas vu depuis des années, pas entendu parler depuis des années. Le nom Abdelaziz Bouteflika pour aller où? On en parle avec la première invitée d'un jour dans le monde. Nous sommes ce soir au Brésil où Jair Bolsonaro tient ses promesses électorales au détriment des Indiens. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on parle des agriculteurs qui sont tous ou quasiment des pollueurs, des empoisonneurs au service de Monsanto, qui poussent à la consommation d'animaux abattus dans des conditions épouvantables. Vous trouvez qu'on caricature? Sûrement un peu, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. On parle d'agribashing ce soir. 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc ils sont français, ils ont choisi de partir combattre dans les rangs de Daesh en Irak ou en Syrie.
13 djihadistes français devraient être jugés en Irak. Ils sont soupçonnés donc d'être des combattants du groupe État islamique. Ils ont été capturés par les forces arabo-kurdes et vont devoir répondre de leurs actes devant la justice irakienne. Emmanuel Macron a refusé de le confirmer cet après-midi. Bonsoir Christian Chedeau.
Bonsoir.
Vous étiez à l'Elysée et lors de la conférence de presse commune avec le président irakien, Bahram Saleh, lui, l'a clairement reconnu.
Oui, parce que Emmanuel Macron, lui, est resté très laconique sur le transfert de ces 13 djihadistes français vers l'Irak, alors qu'ils ont été capturés en Syrie. Pour le chef de l'État, cette opération s'inscrit dans le cadre d'une coopération sécuritaire entre les FDS, les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, et les autorités de Bagdad.
Pour les Français majeurs détenus ou qui seraient transférés, ils relèvent d'abord des autorités de ce pays à qui il revient de décider souverainement s'ils doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place. Et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire. Et à ce moment-là, notre réseau diplomatique est ou sera mobilisé en ce sens.
Alors on a quand même le sentiment d'une sorte d'accord tacite ou formel entre Paris et Bagdad pour transférer les djihadistes les plus dangereux de la Syrie vers l'Irak. Bahram Saleh a lui reconnu que 13 d'entre eux avaient bel et bien été remis aux autorités irakiennes.
Ceux qui ont commis des crimes contre l'Irak, les Irakiens, les installations irakiennes et contre la loi irakienne seront poursuivis en justice et ils seront jugés devant les tribunaux irakiens.
Alors effectivement, les deux présidents n'ont pas voulu entrer dans les détails de ces transferts transfrontaliers, notamment sur l'identité des djihadistes transférés. Ce qui est certain, c'est que cette opération arrange bien la France, qui n'est pas pressée de les récupérer.
Merci Christian Chedeau. Lui aussi est accusé d'avoir agi au nom du djihadisme. Mehdi Nemmouche, comparé à Bruxelles en Belgique pour l'attaque du musée juif dans la capitale en 2014. Réquisitoire sévère aujourd'hui contre l'homme de 33 ans, enfermé dans un silence aussi indécent que provocateur, a dit l'un des avocats généraux. Le verdict est attendu au début du mois prochain. La plainte contre Luc Besson, finalement, classée sans suite. Le cinéaste français était accusé de viol par une femme. Un témoignage, d'autres ont été révélés ensuite par le site Mediapart. Corinne Audouin, vous nous avez rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
Alors la parole se libère hein, depuis le scandale Weinstein et le mouvement MeToo, mais cette parole n'a pas suffi à la justice aujourd'hui.
Oui, tout a commencé en mai de l'année dernière. La comédienne Sand Van Roy porte plainte contre Luc Besson. Ils entretiennent une relation depuis 2 ans. Elle l'accuse de l'avoir forcé un rapport sexuel la veille à l'hôtel Bristol. Elle a un bleu à l'œil gauche. Le 6 juillet dernier, Sand Van Roy dépose une seconde plainte dénonçant des viols antérieurs. Saisis par le parquet, les policiers de la première DPJ entendent 2 fois la jeune femme. Le réalisateur est lui aussi interrogé en octobre. Et puis il y a 2 mois, les enquêteurs confrontent Sand Van Roy et Luc Besson. Luc Besson nie toute contrainte envers la jeune femme recrutée pour un petit rôle dans son film Valérian. Sand Van Roy décrit une relation d'emprise. faite de violence et d'humiliation. Alors 4 autres femmes ont témoigné dans le cadre de cette enquête. 3 dénoncent des gestes inappropriés de la part de Luc Besson, pouvant être qualifiés d'agression sexuelle, des faits allégués qui remontent au début des années 2000. La 4e fait état d'un harcèlement récent, mais elle n'a pas porté plainte. Après 9 mois d'enquête, le parquet estime donc qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour étayer l'accusation de viol. Par la voix de son avocat, Luc Besson dit prendre acte avec satisfaction de cette décision. L'avocat de Sand Van Rooy annonce d'ores et déjà une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour obtenir qu'un juge d'instruction soit saisi de l'affaire. Ce n'est que le début, vient à l'instant de poster sur Twitter la jeune femme.
Merci Corinne. Aux États-Unis, le chanteur R. Kelly, lui aussi accusé d'abus sexuels sur 4 personnes, dont 3 mineurs, vient de plaider non coupable. Il a comparu en tenue de prisonnier orange à Chicago. La star du R&B est en détention depuis vendredi soir.
L'usine Ford de Blanquefort en Gironde ne devrait pas échapper à la fermeture.
Fermeture synonyme de plan social pour ses 800 salariés. Le groupe refuse la dernière offre de reprise de Punch. Une réunion a lieu en cette fin d'après-midi à Bercy avec les syndicats. Le ministère s'est beaucoup impliqué dans ce dossier, en vain. Eux espèrent beaucoup de la nouvelle législation. Les producteurs de lait dans le secteur agricole ont dit qu'ils seront les premiers gagnants de la nouvelle loi alimentation. Les premiers bénéficiaires des négociations entre les industriels et les distributeurs qui se tiennent en même temps que le salon de l'agriculture en ce moment même. Donc, l'un des défis de la loi alimentation, c'était de mieux rémunérer les producteurs. Alors, Marie-Thérèse Bonneau, la vice-présidente de la Fédération nationale des producteurs laitiers, espère bien qu'effectivement, le secteur va en récolter les fruits. Mais elle veut rester prudente.
Si le lait s'en sort bien, tant mieux. Mais c'est plutôt aujourd'hui, j'irais, un sentiment plutôt qu'une réalité avérée. C'est plutôt un bon signal, mais est-ce que ça va être une réalité? En tout cas, en 2019, c'est une année très charnière pour les éleveurs parce que nous avons subi beaucoup trop d'années où les choses étaient très difficiles. Et s'il n'y a pas un signal positif, mais pas seulement dans les discours, mais dans le prix du lait, eh ben, malheureusement, je pense que les vaches prendront plutôt le chemin du camion plutôt que le chemin du pré. Nous, on est plutôt en attente d'avoir des éléments concrets sur ce retour et ce ruissellement. La question, c'est est-ce que ça sera un ruissellement, une cascade, peu importe, nous on veut être mouillés par l'eau, hein, parce qu'aujourd'hui on n'est que dans la promesse.
La vice-présidente de la Fédération nationale des producteurs laitiers, Marie-Thérèse Bonneau, au micro de Manuel Ruffez au Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture, rendez-vous incontournable des politiques également. Le patron de la droite, Laurent Wauquiez, a profité de son tour à la Porte de Versailles à Paris pour fustiger Emmanuel Macron. Il l'accuse de mentir. Selon le président des Républicains, le gouvernement et le chef de l'État ne défendent pas assez les agriculteurs à Bruxelles. Le Premier ministre, lui aussi, a visité le salon ce matin. Édouard Philippe, obligé également de recadrer sa ministre Jacqueline Gourault, qui proposait hier d'instaurer un impôt sur le revenu universel, c'est-à-dire payé par tous les Français. Ce n'est pas à l'étude, a fait savoir l'entourage d'Édouard Philippe. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Amélie.
Le gouvernement tangue donc dans ce grand débat pour répondre aux gilets jaunes. Sur la fiscalité, pas facile de parler d'une seule voix.
Un an, échange fleuri hier matin entre ministre et conseiller à Bercy, texto et emoji contrariés. Tu as vu Jacqueline dans le JDD? C'est quoi ce merdier? Je cite le SMS. Hein. Ça va encore nous retomber dessus. Alors qu'à Bercy, justement, la leçon a été retenue. Moins on parle fiscalité dans le grand débat, et mieux on se porte. Rappelez-vous la mésaventure de Bruno Le Maire sur la taxe d'habitation. Et si on la maintenait pour les 20% les plus riches? Rétropédalage immédiat, sous pression de l'Elysée. Même expérience douloureuse pour Gérald Darmanin, qui voulait raboter les niches fiscales pour les plus riches. La liste est longue des ministres recadrés et recalés au concours l'épine de l'impôt, ironise un conseiller. Marlène Schiappa, qui voulait revenir en arrière sur la suppression de l'ISF, François de Rugy et Brune Poirson, qui ont relancé le débat sur la taxe carbone. Ce sujet est ultra sensible, justifie Matignon, et tout ce qui vient brouiller l'idée que l'impôt doit baisser est proscrit. Période étrange pour des ministres à qui il est demandé de contribuer au grand débat, mais sans sortir des clous. La règle, c'est même qu'ils ne s'expriment plus dans la presse écrite sans avoir été relus par Matignon.
Merci Yael Gauze, chef du service politique de France Inter.
Il est 18h presque 10 sur Inter. La suite, Amélie, c'est une réunion diplomatique cruciale autour du Venezuela.
Réunion de ce que l'on appelle le groupe de Lima. 14 pays latino-américains et le Canada se retrouvent en Colombie, cette fois autour de Juan Guaido, l'opposant au président Maduro. Le groupe, qui n'a jamais reconnu le second mandat de Nicolas Maduro, veut établir un plan pour le faire partir du pouvoir. Les 14 du groupe ont été rejoints aujourd'hui par le vice-président Mike Pence, le vice-président américain, qui a dit à Juan Guaido, nous sommes avec vous à 100%. Les États-Unis États-Unis en phase de dialogue avec l'un de ses adversaires, l'un de leurs adversaires les plus coriaces. Le sommet entre Donald Trump et le Nord-Coréen Kim Jong-un se prépare. Il a lieu dans 2 jours à Hanoï, au Vietnam. Kim Jong-un a déjà pris la route. Il va traverser la Chine en train pour rejoindre le Vietnam. La Chine où une appli fait fureur en ce moment. Une application pour téléphone mobile à destination des membres du Parti communiste. Elle permet d'étudier la pensée du président chinois Xi Jinping, de suivre l'actualité à travers une sélection d'articles, des médias officiels, mais surtout, elle note et évalue les membres du PCC. Une sorte de petit livre rouge électronique, Simon Leplâtre.
À première vue, l'application n'a rien de particulièrement séduisant. On y trouve des articles du quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste, ou des vidéos de la télévision d'État chinoise. Pas vraiment le genre de sujet qui font le buzz. Mais la plupart des Chinois qui ont téléchargé cette application n'ont pas vraiment eu le choix. Ce sont les 86 millions de membres du Parti communiste qui ont eu l'ordre de le faire. La spécificité de cette application, c'est qu'en plus d'une sélection d'articles, elle intègre un système de notation pour évaluer le sérieux des utilisateurs. Bref, plus question de somnoler pendant les réunions du parti. Certains fonctionnaires ou employés d'entreprises d'État se plaignent même sur les réseaux sociaux d'être obligés d'atteindre 40 ou 50 points par jour. Cette jeune journaliste et membre du Parti communiste qui travaille pour un média d'État à Shanghai a dû télécharger l'application.
C'est vraiment très moderne. En plus, il y a une sorte de tableau où on peut voir les notes des collègues de son entreprise. Tout le monde a un peu l'esprit de compétition. Il y a des gens qui vont vouloir être les premiers.
Bref, avec l'application « Étudier si rendre le pays fort », c'est la propagande chinoise qui se modernise en devenant ludique. Certains se vendent déjà de leur score sur les réseaux sociaux. Les plus chanceux affichent même les livres, les places de cinéma reçues pour les récompenser. Shanghai, Simon Leplâtre, France Inter.
Le constructeur BMW condamné à une amende de 8,5 millions d'euros en Allemagne pour des infractions aux normes anti-pollution. Beaucoup de groupes automobiles sont soupçonnés d'avoir trafiqué leurs moteurs pour les faire paraître moins polluants. BMW échappe toutefois à des poursuites judiciaires. Et pendant ce temps, les villes suffoquent sous les particules fines. À Paris, la préfecture reconduit ses mesures demain pour réduire la vitesse de 20 km/h. Interdiction également de se chauffer au bois demain pour ce 5e jour d'épisode de pollution. Le très beau temps fixe les particules fines sur les villes. On a presque envie de dire vivement la pluie. On va terminer par la culture. Il s'appelle Biran Ba. Il a signé ce matin son contrat à la Comédie Française. Le jeune homme en est le tout nouveau pensionnaire. Et si l'on parle de lui en particulier aujourd'hui, c'est qu'il est noir. En cela, Stéphane Capron, bonsoir.
Bonsoir, Aurélie.
Il fait figure d'exception, en tout cas de rareté, dans le temple du théâtre classique français. Hein.
Oui, c'est vrai, la diversité progresse doucement à la Comédie Française et d'une manière générale dans le théâtre, mais avec le travail d'aiguillon d'une association comme Décoloniser les Arts qui pointe l'absence d'artistes issus des minorités dans le monde de la culture, eh bien, les mentalités s'ouvrent. C'est le cas d'Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, qui a fait signer ce matin son contrat à Biran Ba. Il a rejoint d'autres comédiens noirs, Bakary Sangaré, qui est entré en 2002 et plus récemment, Gaël Camille Dilly en 2017. Pour Biran Ba, c'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Il est né en Normandie, à Vernon, c'est un fan de foot, de rap. Il décroche ses ennemis au bac français et s'inscrit à la classe libre du cours Florent, puis intègre le conservatoire. Tout s'enchaîne très vite pour lui. Il joue au théâtre de la Tempête, puis à la MC 93 de Bobigny, avant d'être embauché comme artiste auxiliaire en septembre dernier à la Comédie Française pour faire un remplacement dans les Fourberies de Scapin dans le rôle d'Octave. Alors, intégrer la troupe, c'est une chose. Maintenant, il faut avoir le courage de proposer à ses acteurs les grands rôles du répertoire. Hamlet, Scapin. Pour Biran Ba, cela commence plutôt bien. Il débute cette semaine une tournée en France et en Suisse avec la Comédie Française dans un rôle titre Bajazé de Racine.
Merci beaucoup Stéphane Capron. Et salut enfin la disparition de Roland Leroy, ancien directeur du journal L'Humanité. Il vient de mourir, il avait 92 ans. Roland Leroy a dirigé le quotidien communiste pendant 20 ans, de 74 à 94. C'était aussi un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été chargé également des intellectuels et de la culture pour le PCF.
Amélie Perrier, merci beaucoup.